Donc bonsoir à vous tous pour ce programme donc autour de l'évangile selon Jean et la joie qui nous est donnée par le Christ. Alors on a choisi avec Jérôme ce programme en pensant à Pâques, bien sûr, puisque c'est dans les derniers entretiens que Jésus a avec ses disciples. Alors quand il parle de la joie, c'est d'autant plus frappant que c'est quelques heures avant d'être arrêté, exécuté, et bon, en fait, il a un peu deviné que ça commençait à tourner au vinaigre, en fait. Et donc, il donne, en quelque sorte, son testament spirituel. Alors, le testament spirituel, en fait, il commence au chapitre 13 avec le lavage des pieds, le 14, 15, 16, quoi.
Vous dites lavage ?
Bah, dans le temps, on disait lavement, mais moi, lavement, ça me fait penser au clistère. Alors, du coup, c'est vrai que j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi.
Mais c'est très bas.
Non, mais on dit, je ne sais pas, un lavement. Quand on pense à lavement, on pense à autre chose que pour se laver les pieds. On ne dit pas, je vais faire un lavement de mon visage. Je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est marqué souvent lavement des pieds. Oui. Mais j'ai du mal, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal. Oui, donc là, c'est des très, très beaux, c'est des passages absolument, absolument sublimes. Pas évident du tout, en fait, à commenter, à lire. Parce que souvent, cette plume de Jean, bon, ça va et ça revient. Ça a un peu la trajectoire de la feuille morte prise dans un tourbillon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu par couches successives. C'est un peu paradoxal, souvent. Comme on le voit, d'ailleurs, dans ce que disent les disciples. Hein, dit, mais tu parles tout le temps de manière énigmatique. C'est un peu ça. En même temps, c'est un langage très clair. En même temps, c'est vrai que des fois, ça nous place devant des abîmes de questionnement. Donc, quoi, il y a marqué lavage ou lavement ?
Non. Je regardais justement la séquence parce que ça fait plusieurs chapitres. Ça va du 13 au 17.
Il y a le 17,
17.
La prière, ce qu'on dit sacerdotale, voilà. La prière d'unité, finalement. Et puis, donc, c'est une longue tirade, finalement. C'est une longue tirade de Jésus. Et ça s'arrête, voilà, ça s'arrête à la fin du chapitre 17. Et ça commence avec le chapitre 18. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples. Donc, c'est ça. C'est de 13 à 17, ces entretiens. Ce dernier entretien de Jésus dans l'évangile selon Jean. Alors c'est tout à fait original en fait dans Jean, je pense. On n'a pas, c'est ce qui tient lieu finalement de récit de la scène finalement du dernier repas de Jésus. Là il n'y a pas de scène, il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas c'est finalement c'est pendant ce repas que Jésus donne le geste du lavage des pieds. Et ce grand discours hein, sur ce testament spirituel, voilà. Donc un autre geste symbolique et ces paroles très fortes qui sont en elles-mêmes quasiment un résumé de tout l'évangile.
Oui, juste pour le dossier historique, parce que vous savez que c'est une question récurrente. Visiblement, ce dernier repas, qui est le repas d'adieu, et qui est donc l'occasion d'un long discours, effectivement, assez répétitif, assez envoûtant, hein, est présenté quelquefois comme le céder pascal. Le céder, c'est le repas pascal. Alors, vous savez peut-être que dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ce qu'on appelle le dernier repas, la scène, est bien le repas pascal. Ce qui est assez étrange d'ailleurs, parce que ça veut dire, puisque tout laisse entendre que la fête de Pessah, la fête de Pâques, tombait un Shabbat, donc que Jésus soit crucifié un jour de Shabbat, ça paraît improbable. Donc souvent, on a dit que Jean, qui est pourtant écrit le dernier, qui est écrit à la fin du 1er siècle, serait peut-être plus vraisemblable parce que, de fait, pour d'autres raisons, tout aussi symboliques d'ailleurs, Jean fait mourir Jésus au moment de la préparation, c'est-à-dire au moment où on immole les agneaux au temple avant Pâques. Et donc, ce repas dont il est question ce soir ici ne serait pas le céder, ne serait pas le repas pascal. Mais, comme s'accordent à le dire tous les exégètes, ce serait un dernier repas coloré forcément par la Pâque. Hein. Moi, il m'arrive souvent, par exemple, de fêter Noël par anticipation avec des amis, et c'est Noël. C'est déjà, et quelquefois c'est meilleur même, parce que ça a le goût de... Voilà. Et je pense personnellement que c'est un peu ça. Je sais qu'Annie Jaubert avait une thèse. Elle disait que Jésus suivait le calendrier solaire des Esséniens, qu'il avait fêté Pâques un mardi, et que du coup, elle pouvait comme ça, au prix d'un certain... d'une certaine gymnastique, faire coller tous les évangiles entre eux. En tout cas, Jean ne présente pas ce dernier repas, d'ailleurs ça n'est dit nulle part, comme étant la Pâque. Mais on est avant Pâques, on est dans l'anticipation de Pâques. Et c'est ensuite, à la résurrection, que les disciples relisent tous les événements à travers l'histoire de Pâques. D'ailleurs, il n'est pas question d'agneau dans les synoptiques non plus, d'ailleurs, comme si c'était Jésus déjà l'agneau.
Tu as raison, parce que le début du chapitre 13, ça commence avant la fête de la Pâque. Alors, cela dit, je crois qu'il faut voir un peu le statut de ces textes bibliques. Et c'est là, je crois, que l'explication de cette dame est un peu foireuse, enfin, à mon avis. Si vous voulez, c'est que ce n'est pas un compte-rendu chronologique au sens où un historien ferait un compte-rendu jour par jour. Le niveau, le statut même de la vérité n'est pas celui de la vérité historique dans ces textes. Et donc, à partir d'événements qui se sont vraiment passés, les auteurs des évangiles en font des prédications, c'est-à-dire essayent de tirer, à travers ce qui s'est passé autour de la vie de Jésus, essayent d'en tirer ce qui concerne le salut de nous tous, du lecteur, de l'auditeur de cette parole. Et donc, moi, je crois qu'au point de vue historique, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Il est, à mon avis, il fait hors de doute que Jésus, grosso modo, est mort aux alentours de Pâques, ce qui est assez logique, parce que, si vous voulez, à la fin, ça tournait un peu mal. On le voit qui esquive un peu, qui se met un peu à l'abri, qui se met un peu à l'écart, qui se met un peu presque à l'étranger, en Galilée, ou je ne sais pas quoi, bon, si vous voulez. Et puis, pour la fête de la Pâque, ben, après quelques hésitations, il va pour annoncer l'Évangile. Mais c'était le lieu d'un grand pèlerinage, tout le monde se rassemblait là, et donc c'est vraiment pas invraisemblable, c'est assez plausible que Jésus ait eu ce courage de se dire « bon, ben maintenant, il faut y aller, il faut pas tergir le verset, il faut y aller et annoncer vraiment les choses clairement, coûte que coûte, finalement, et puis qu'il se soit fait attraper... exécuté à ce moment-là, ça paraît assez plausible. Ensuite, est-ce que c'est le mardi, le mercredi, le jeudi ? Ça n'a pas d'importance. Après, l'inscrire dans la préparation, l'inscrire sur le jour de la Pâque, sur le repas de la Pâque, tout ça, après, c'est des questions de prédication, c'est-à-dire de jeu de symboles pour dire le sens, finalement, d'une relecture du sens de la mort de Jésus. Donc, c'est une... Si vous voulez, peu importe à ce moment-là la vérité historique. C'est pas la question. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on l'interprète ? Comment on le comprend ? Comment ça fait sens pour nous ? Alors, mettre la mort de Jésus en même temps que la Pâque, bah, évidemment, c'est assez fort. Parce que la Pâque... la question, c'est pas celle de la libération des Hébreux d'Égypte. C'est le fait que Dieu soit libérateur. Et donc, que Dieu soit libérateur, que... par miracle, il libère des esclaves, les conduit à travers le désert en révélant sa parole, en les nourrissant, en les guidant, en les accompagnant, en leur donnant la force, et puis finalement les conduisant jusqu'à la terre promise. Ça a été toujours dans la catéchèse des Hébreux, aussi dans leurs prières, dans leurs fêtes, dans la célébration de la fête de la Pâque pendant des siècles. Ça a été une façon de relire cette histoire pour se l'approprier comme Dieu libérateur de notre existence, de nos chaînes, même quand les Hébreux n'étaient plus en Égypte. Donc déjà, si vous voulez, dans cette catéchèse autour de cette histoire de l'Exode, il y a déjà une relecture symbolique, bien entendu, de cette libération hors d'Égypte, qui est peut-être d'ailleurs un mythe, qui est probablement en partie, en grande partie, ou totalement mythique. Mais... c'est encore ce qui est relu en Jésus-Christ. Et du coup, on nous dit, Jésus-Christ, il nous libère du péché, pas d'Égypte, parce que qu'importe qu'on soit en Égypte, au Groenland, mais on nous libère du péché, on nous, en Christ qu'est la parole, en Christ qu'est cette présence de Dieu qui nous accompagne, qui nous met en route, qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui nous guide jusque, non pas la terre promise, mais la vie éternelle, c'est-à-dire une vie si profonde et vraie qu'elle touche à la promesse que Dieu fait pour notre existence déjà en ce monde, et existence plus forte que la mort. Donc de toute façon, si vous voulez, relire le salut en Jésus-Christ comme le salut ultime, le mettre, le décalquer, le mettre en parallèle avec ce qui est l'archétype, le type même du salut pour les Hébreux depuis des siècles, c'est assez logique. Donc faire coïncider un moment ultime est tout à fait surprenant, de la mort du Messie, la mort du Sauveur. Ils se sont dit, mais ça colle pas à cette affaire. Donc ils ont fait une interprétation pour essayer de comprendre comment ça pouvait faire sens, que faire de ça, et ils l'ont évidemment mis en parallèle avec la Pâque, voilà. Alors peut-être finalement que c'est comme quand nous ensuite on met Noël, puisque tu parlais de Noël, sur le solstice d'hiver. On sait très bien que Jésus a aucune chance d'être né le solstice d'hiver, à peu près une chance sur 365, et ce serait un hasard de toute façon. Si vraiment les bergers étaient dans les champs à ce moment-là, c'est pas complètement sûr que ce soit en plein hiver non plus. Mais peut-être que les bergers sont symboliques aussi, mais qu'importe, si vous voulez, c'est du même geste. On place la naissance de Jésus au moment où c'est le plus sombre de l'année, où la lumière va être croissante et montante. Donc c'est une vérité symbolique dans ce sens, même si c'est pas une vérité historique. Ben, pour la Pâque, c'est pareil. Je pense qu'il y a quelque chose d'une vérité historique. C'est assez logique que Jésus soit venu parler au moment d'un grand rassemblement de tout ce qui a une vraie recherche spirituelle en Israël à ce moment-là, qui va faire le pèlerinage, qui vient témoigner à ce moment-là, qui se fasse attraper, crucifié à ce moment-là. C'est pas du tout illogique. Mais du coup, il y a une relecture symbolique de ça. Ensuite, tu disais Jean est le dernier, le plus tardif. Au niveau de la rédaction finale, sans doute, au niveau des sources... Il y a beaucoup de passages, au contraire, qui sonnent très archaïques, très proches de choses qu'on ne pouvait pas savoir en l'an 70, 80, 90. Quoi. Donc, c'est peut-être à la fois le plus ancien et le plus tardif. Parce que c'est toujours le problème, on ne sait pas. Ça n'a pas été écrit en une nuit, si vous voulez, ces textes. Il y a une tradition orale, il y a des fragments de prise de notes du vivant de Jésus, de paroles de Jésus qui étaient prises en notes, et puis de tout ça, sans doute, les rédactions finales sont quand les apôtres commencent à mourir et qu'ils se disent bah, il faut vraiment remplacer les apôtres par, par des témoignages d'apôtres, en fait. Et c'est mis sous le nom d'un apôtre ou d'un évangéliste qui avait donné qui avait laissé des... qu'a monté une école, finalement, une école de théologie, une école de spiritualité aussi. Donc ça, c'est mis sous le signe de Jean. Alors, est-ce que c'est Jean qui a écrit du premier jusqu'à la fin? Bah, peut-être. Mais, voilà, en plusieurs couches, sans doute.
Tout à fait. Pour la question quand même du dossier historique, parce que je pense que c'est une question qui est souvent lancinante, l'accès à la vérité chrétienne... combine à la fois un sens littéral, historique, puis un sens figuré, symbolique. Voilà. Et il faut toujours tenir les deux. Et le débat qu'on a là, d'une certaine manière, a existé dès la plus haute antiquité, dès les débuts de l'Église. On disait que l'école d'Antioche, l'exégèse antiochienne, était plus proche du sens littéral, avait même tendance à lire les textes de la Première Alliance comme des textes historiques, etc., à prendre au sérieux le roi David. Bon. Et l'école alexandrine, au contraire, décrochait complètement et était immédiatement, à cause aussi d'une tradition égyptienne qui est fascinée par le mystère, fascinée par le symbole, bien sûr, l'Égypte, les pyramides, etc. Donc eux, ils méprisaient un peu le sens littéral et tout de suite, ils étaient... Origène en fera foi, évidemment, dans le sens figuratif, où tout est symbole de tout, tout est figure de tout, etc. Alors, moi, je crois que, justement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a fait l'Église, c'est-à-dire qu'elle fait mémoire de la Pâque du Christ, de ce qu'on appelle sa Pâque, en proposant à la vie et à la contemplation des fidèles, justement, une séquence temporelle. Alors, bien sûr, l'idée que l'entrée triomphale à Jérusalem, c'est un dimanche, et puis ensuite qu'il y a le Triduum pascal, là, évidemment, on sent très bien que c'est un montage, que c'est un montage rituel, pédagogique, etc., mais qui a sa valeur.
Bah oui.
Parce que l'idée, c'est de dire que tout ça se déploie dans le temps, qu'il a fallu temps, qu'il y a une structuration, effectivement, temporelle, dramatique, au sens d'un drame. Donc, le génie des églises, c'est d'avoir réussi à proposer un drame qui reproduise, pas de manière mimétique, bien sûr, mais qui s'enracine quand même dans quelque chose qui a été vécu, qui a demandé effectivement du temps, de la patience, au sens de la passion même, puisqu'il n'y a pas de passion sans incarnation dans le temps. Donc, d'un côté, effectivement, il y a ce déploiement rituel qui va du dimanche des Rameaux jusqu'à Pâques et qui est le substrat de notre vie de célébration et de notre célébration communautaire, parce que ça invite les gens, du coup, à comprendre que le temps se contracte, que les événements se précipitent et que d'une certaine manière, alors que l'Église, par ailleurs, souvent refuse ce mimétisme, hein, même dans la messe, c'est très frappant. Le geste de la fraction du pain, par exemple, dans le rite romain, ne se fait pas au moment où on dit
« non plus,
il prit le pain, il le rompit ». La fraction du pain se fait un quart d'heure après, au moment de l'Agnus Dei, par exemple. Donc l'Église a toujours voulu suggérer aux fidèles qu'on n'avait pas accès comme ça de manière immédiate, parce que l'immédiateté, c'est l'idolâtrie, c'est ce que font certaines sectes chrétiennes. Il n'y a pas un accès immédiat, il faut la patience, des détours, par du langage symbolique, par toute l'épaisseur des signes, etc. Et donc l'Église n'est pas mimétique, elle ne théâtralise pas, au sens trivial du mot, ses célébrations. Mais pour la Semaine Sainte, quand même, elle invite les fidèles à vivre. Et je dirais, plus le temps approche, plus le fidèle se retrouve seul avec Jésus et il est invité à vivre un peu heure par heure. Alors, il faut bien sûr que les gens comprennent que c'est une poétisation du temps. Mais il y a un fondement, il y a quelque chose de vrai. Il y a eu l'angoisse, il y a eu les adieux, il y a eu le moment des séparations, il y a eu l'arrestation. Il y a eu des petits matins difficiles avec des réunions nocturnes, des conciliabules. Il y a eu... voilà. Et à un moment, il y a un temps humain. Moi, je trouve que... Enfin, c'est pour ça que beaucoup de personnes vivent intensément le Triduum pascal. C'est que ça rejoint quand même quelque chose de... On peut le rater, hein. Mais il y a quelque chose quand même qui... Mais alors, c'est peut-être ce qui...
Il y a des gens. Non, parce que nous aussi, j'ai mis d'ailleurs le programme de nos semaines saintes à la fin du truc, parce qu'il restait une page blanche. Je me suis dit, qu'est-ce que je mets? J'ai mis le programme de la semaine sainte à Saint-Eustache, à l'oratoire. En fait, on voit que c'est relativement proche. Cela dit, je veux dire, tout le monde n'est pas forcément. Je crois que c'est important quand même de se rappeler que c'est une pédagogie, si vous voulez, ces célébrations, cette semaine pascale. C'est une pédagogie, et donc il y en a qui sont sensibles et d'autres moins. Bah, écoutez, chacun son style, chacun sa sensibilité. Mais ensuite, sur la vérité littérale, historique, c'est vrai qu'on a quand même... Saint Augustin s'était posé la question. Il a écrit d'abord un commentaire de la Genèse au sens allégorique. Ensuite, il s'est repris, il a fait un commentaire au sens littéral. Alors, c'est pas au littéral. C'est-à-dire qu'il garde le sens allégorique, mais il rajoute un sens littéral au sens où ça se serait vraiment passé, il y a eu un monsieur Adam et une madame Ève. Bon, aujourd'hui, dans nos églises, particulièrement depuis Richard Simon, qui était un oratorien, qui travaillait à la bibliothèque en face, on a quand même évolué sur ces questions, et on dirait que quand même la Genèse, c'est quand même plutôt un conte théologique, et que le sens n'est que... théologique, spirituel, existentiel, moral, finalement. Il n'y a pas de sens historique sur cette histoire. Bon, sur l'Évangile, c'est souvent un peu plus délicat à dire. C'est un peu plus délicat. Bon, par exemple, si vous voulez, Jésus qui marche sur l'eau, moi, personnellement, je dirais que c'est purement une vérité qui est de l'ordre spirituel existentiel, que s'il n'y a pas de vérité historique, Jésus qui, que la poussée d'Archimède s'impose à Jésus comme à tout le monde et qu'on ne peut pas marcher sur l'eau sans ski nautique. Mais ça appartient à chacun, si vous voulez, de se poser la question, de décider au niveau historique, littéral, matériel, qu'est-ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a dit ça, qu'il peut y avoir divergence là-dessus, ben ensemble, on peut chercher qu'est-ce que ça veut dire. Si Jésus l'a fait, ce n'est pas juste pour faire le malin, pour faire des prodiges comme un magicien. Il l'a fait pour poser un acte symbolique de toute façon, un acte qui fait sens et que nous devons relire comme étant signe d'un salut qui nous est donné en Christ. Donc de toute façon, ce n'est pas très important de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Cela dit, je suis d'accord avec Jérôme, le fait que Jésus ait vraiment vécu cette semaine, commençant sur une atmosphère de triomphe qu'il esquive un petit peu, ensuite qu'il y ait un temps de prédication, et puis un moment d'angoisse, de solitude, d'abandon des disciples, un dernier repas où il donne un peu son testament spirituel, et puis les procès et la crucifixion, je pense, si vous voulez, que là, il y a vraiment un fond historique. Ensuite, est-ce qu'il y a eu l'éclipse de soleil pendant 3 heures? J'ai des gros doutes. Je pense que c'est plutôt symbolique que littéral.
Et le rideau du temple.
Le rideau du temple qui se déchire de bas en haut. Qui est allé vérifier, si vous voulez? Alors, peut-être qu'ils ont pu entendre dire que les prêtres, mince, le rideau s'est déchiré, on va le recoudre discrètement. J'ai des gros doutes, si vous voulez, sur le sens littéral ou même, je dirais, sur l'importance en quoi que ce soit. De sens littéral là-dessus, mais c'est plutôt symboliquement que c'est passionnant, si vous voulez. Et donc, il n'est pas la peine de se dire, d'essayer de voir quand est-ce qu'il y a eu une éclipse de soleil ou je ne sais pas quoi, pour essayer de dater quelle est la Pâque où Jésus a été crucifié. Ça ne marche pas comme ça. On peut chercher quand est-ce que Pilate était gouverneur, oui. Ça, oui. Ensuite... C'est pas grave, si vous voulez, qu'il soit crucifié en 35, en 36 ou en 34, je sais pas très bien. Bon, si vous voulez, on s'en remettra de pas forcément le savoir. Puis si un jour on le sait, c'est très bien. Mais...
Ce qu'il faut comprendre, c'est certain, c'est que Jésus, l'identité de Jésus et son identité de Christ, cumulant sur lui la prophétie, le sacerdoce du temple... la royauté, puisque c'est ainsi qu'il est présenté dans l'entrée à Jérusalem. Donc tout ça n'est lisible, tout ça n'est compréhensible, tout ça n'est audible, tout ça n'est accessible que si on connaît la tradition d'Israël. Et évidemment, là, il y a un travail spirituel, pédagogique qui est exceptionnel, parce que relier les événements à la Pâque, qui n'était d'ailleurs pas la plus grande fête, hein, c'était plutôt Kippour qui reste... la grande fête du pardon, là où le grand prêtre entrait dans le débir, le Kadosh HaKodashim, le Saint des Saints. Voilà, il y a un énorme travail qui est fait pour comprendre Jésus. On pourrait d'ailleurs se demander si les goyes, si les nations, à partir, ça a été fait d'ailleurs, puisque certains ont vu chez Virgile... ou dans les oracles des Sibylles, déjà des annonces, ou en tout cas une attente d'une figure historique qui viendrait régénérer, renouveler et sauver. Donc oui, il est probable que ce travail pourrait être fait par toutes les cultures universelles, ce travail de relecture et de compréhension de qui est Jésus, mais bien sûr, il y a un lien privilégié avec la tradition juive. Sans la tradition juive, Jésus était complètement illisible. Et, sa mission, son identité, les mystères que l'Église a élaborés, d'incarnation, de rédemption, de trinité, ne sont pas compréhensibles sans cet enracinement-là. Alors, avant qu'on lise, quand même, je vais rappeler qu'on a lu à Saint-Eustache samedi dernier, en continu,
oui, l'évangile
de Jean. Et le dernier duo, il y a parmi nous des gens qui ont lu, le dernier duo n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y avait des contraintes liturgiques. Et ils se sont arrêtés au seuil précisément de ces textes qu'on va lire, de ces fameux chapitres 13 à 17, qu'on appelle quelquefois, que les théologiens appellent quelquefois le livre de l'heure. Il y aurait le livre des signes qui va de Cana jusqu'à... jusqu'à Lazare, la résurrection du Lazare, comme disent les orthodoxes, comme disait Bérulle aussi, le Lazare. Et il y a le livre de l'heure, du Kairos. C'est-à-dire que tout d'un coup, les choses se précipitent. Et là où une vie peut être un peu amorphe, un peu routinière, un peu insignifiante, tout d'un coup, les événements prennent du sens. C'est ça qui est très frappant dans ce discours d'adieu. On pourrait croire que c'est une espèce de pause dans le récit avant que les événements s'emballent. Mais en fait, c'est extrêmement dramatique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un avant et un après, que quelque chose est en train de se jouer. Il dit « Mon heure est venue, et d'ailleurs, elle est déjà venue, elle est même venue pour vous. » Donc, il y a une espèce de pliure dans le temps. Moi, je suis très sensible à ça, parce que l'Antiquité, souvent, les sagesses païennes présentaient le temps comme quelque chose de cyclique, de répétitif. On l'avait vu la dernière fois dans le Coëlette, dans l'Ecclésiaste. Le temps lui-même n'a pas forcément la forme d'un destin, les choses reviennent, elles vont, elles viennent, elles se répètent. Puis là, tout d'un coup, on est au cœur d'un drame absolument hallucinant. Et tout est fait, d'ailleurs, pour que ce livre de l'heure, qui commence avec ce discours des adieux et avec la prière sacerdotale, au chapitre 17, où Jésus semble seul avec le Père, dans l'esprit, tout est fait pour que ce soit vécu de manière très intense. Alors les répétitions, on dit souvent que c'est un texte qui était fait pour être entendu, parce qu'il y a un côté envoûtant comme ça, il y a des inclusions, des parallélismes, le texte est très, très redondant, volontairement, un peu comme du Peggy, hein, on dirait quelque chose de... Et on nous dit, juste au moment où Jésus prend la parole, il vient de laver les pieds, que Judas sort, et en grec on dit... Endenux, c'était la nuit. Moi, ça m'a toujours fasciné, parce que c'est vraiment incroyable. Il va parler d'amour, il va parler de joie, il va parler de joie imprenable, il va parler de l'accomplissement de sa vie, il va dire des choses absolument époustouflantes. Hein. Aimez-vous les uns les autres, c'est là où on va le voir. Et c'était de nuit. Hein. On est loin de la petite aurore pascale, on est loin du matin de Pâques, on est loin d'une forme de joie... un peu bucolique, on est loin du printemps. Là, il y a quelque chose d'absolument saisissant et ça plante le décor. Et le texte est très bref d'ailleurs, Endenux, c'était la nuit. Et donc, on imagine une parole tout d'un coup qui est nimbée par cette nuit, qui donne un poids aux choses. Et les disciples eux-mêmes doivent recevoir ces dernières paroles où il est question d'amour, de joie. C'est d'espoir, d'espérance, de promesse. Je vous envoie un défenseur, le paraclet. L'avenir est ouvert. C'est pas du tout un horizon bouché. C'est pas du tout le tragique grec. C'est pas des animaux pris en cage qui se débattent contre un destin. On est face à quelque chose qui est, à mon avis, unique dans la littérature religieuse. Il y a quelque chose de très impressionnant. Alors, on va peut-être lire un peu.
Il va peut-être lire un petit peu le chapitre 15, peut-être, si quelqu'un a le courage de lire le 15, hein. Non, je ne sais pas.
Je vais juste dire quand même un peu ce qui précède, parce que je ne me souvenais pas qu'on avait commencé avec la vigne. Voilà, au chapitre 14, donc Judas vient de partir. Je vous donne un commandement nouveau, il va le redire ensuite. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Alors, vous allez voir, dans toutes ces pages, il n'est question que d'aller-retour et de voyage. Et ça culmine avec, d'ailleurs, « Je suis le chemin ». Je vais au Père, le Père est en moi. Enfin, c'est assez impressionnant.
Quelqu'un veut le lire ou bien
Nicole, notre lectrice, vous l'avez lu. Ah. Vous êtes tombé sur ça ou
Je ne sais plus, vous savez.
Oui, parce qu'il y avait. On alternait chapitre par chapitre.
Je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit dans vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait. Mais vous n'êtes pas du monde. C'est moi qui vous ai mis à part du monde. Et voilà pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas adressé la parole, ils n'auraient pas de péché. Mais à présent, leur péché est une excuse. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait au milieu d'eux ces œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais à présent qu'ils les ont vus, ils continuent à nous haïr, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra le paraclet que je vous enverrai auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement.
Voilà. C'est la traduction.
C'est magnifique. Ouais. C'est top, c'est la top, oui.
Je commence à ressentir ce que j'ai ressenti.
Oui, oui, oui.
C'est terrible quand on le lit, c'est terrible.
Oui, parce qu'on parle à la place de Jésus, et puis c'est très...
Oui,
c'est très long, c'est très, dans les synoptiques, ils ne parlent pas aussi longuement. Hein.
Mais j'allais dire, cette émotion, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas que ce soit fait pour, vous voyez, c'est pas c'est là que ce n'est pas du Peggy ou je ne sais pas quoi, si vous voulez. Je crois que c'est du témoignage, c'est-à-dire que Jean, on dit que c'était le plus proche de Jésus, et il y a mis ses tripes, quoi. Et c'est cette émotion de Jean qu'on peut voir là. Et c'est là qu'on est au-delà simplement du récit littéraire. On est de l'ordre d'un témoignage qui est bouleversant parce qu'il est vécu par celui qui tient la plume. C'est pour ça que je dirais que c'est pas seulement un récit de l'an 80, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement un récit bien écrit. Il y a quelque chose qui est de l'ordre...
C'est là.
Mais enfin, bon.
C'est ça qui est...
Donc la vigne, le sarment au début, ça peut être un peu inquiétant, si vous voulez, cette affaire. Mais comme assez souvent dans la Bible, si vous voulez, c'est le cas de très souvent, si vous voulez. Par exemple, le psaume 1er qu'on avait lu ensemble, quand ça semble comme ça menaçant, si vous voulez, ou la parabole du jugement des nations avec Matthieu 25, les brebis et les boucs qui sont séparés, Là, on pourrait dire c'est menaçant. Si on n'est pas raccroché au Christ, eh bien, on va être jeté au feu. Mais je ne crois pas que ce soit menaçant, parce que tout dans ce texte annonce l'amour du Père. Non, mais je crois que c'est une question de langage. C'est-à-dire que toujours, il faut voir ça comme étant inscrit, à mon avis, si vous voulez, avec cette clé de lecture, que il y a l'amour du Père, ça révèle l'amour du Père. Donc quand on aime quelqu'un, on ne l'élimine pas quand il n'est pas performant, si vous voulez. Quand on aime quelqu'un, on se débrouille pour tout faire pour qu'il le devienne. À mon avis, c'est ce qui est dit ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on risque d'être un sarment qui va être coupé, jeté au feu. C'est plutôt ce qui en nous est problématique, ce qui en nous est déjà mort, et donc ne porte pas de fruits, ne pousse pas et encombre notre existence, c'est ça qui va être retranché. Et donc le service, c'est le Père qui est le vigneron, si vous voulez. Donc le service du Père, c'est de venir nous émonder, nous tailler. Et puis le feu, souvent c'est une image dans la Bible qui n'est pas une image de torture et de mort, c'est une image de purification.
C'est
purification, oui.
Mais
c'est la même chose pour les pleurs et les grincements de dents. Qu'est-ce qui va pleurer et grincer des dents ? Eh bien, c'est ce qui en nous est de l'ordre de l'angoisse, de la méchanceté, de l'asthénie, vous voyez, les vieilles rancunes, les insuffisances. C'est tout ça qui va être grillé, nettoyé et éliminé dans la poubelle. Et si vous voulez, on le voit par exemple ici. De toute façon, je veux dire, même n'importe qui sait comment marche une vigne, le vigneron qui taille la vigne, il ne le fait pas pour la torturer. Et il sait très bien que si on ne taille pas une vigne cette année, l'année d'après, il n'y a pas de fruits. Bah, oui, puis même la vigne, c'est comme ça. Il faut la tailler pour qu'elle produise du fruit. Une vigne sauvage, ça ne produit pas grand-chose. C'est comme ça. Donc, vous voyez, on voit bien que là, bon, je veux dire, mais nous, on ne sait plus comment marche une vigne. Enfin, je veux dire, qui a déjà taillé une vigne? Ah ben, il y a quand même deux personnes. Bon, ben, c'est déjà pas mal, si vous voulez. Mais c'est pas pour la torturer, si.
Ah non, c'est pour que ça donne plus.
C'est pour qu'elle donne plus. Et puis, si vous voulez, même l'idée de la vendange et du pressoir, c'est l'idée, justement, d'aller chercher en chacun tout ce qui peut être bon, tout ce qui est de l'ordre de la moindre goutte de bon jus, finalement. Et donc les fruits, ça exprime ce qui en nous est vraiment vivant et bon et qui va être recueilli. Et l'amour, le propre de l'amour, c'est ça. C'est d'aller dénicher la moindre goutte de fruits en chacun. Et même s'il n'y a pas de fruits, eh bien, de tout faire afin qu'il emporte davantage ou qu'il emporte. Alors ça veut dire aussi, le salut qui est donné en Jésus-Christ, c'est pas du formatage de l'extérieur, voyez. C'est une sève qui nous est apportée pour qu'on porte notre fruit, pour nous faire pousser, pour nous faire développer, pour nous faire produire voilà, une croissance et une fructification. Donc je trouve que ça exprime bien, si vous voulez, le salut qui est en Jésus-Christ, qui est de l'ordre d'une irrigation en profondeur, d'un nourrissement de notre être. Ça exprime bien aussi ce jugement de Dieu, qui n'est pas un jugement qui sélectionne la personne, mais un jugement qui permet de nous travailler en profondeur pour nous aider à ce que nous puissions, à travers notre existence, notre être, produire des fruits de vie éternelle, produire le meilleur, qui est une expression profonde de notre être.
Oui, je pense qu'il y avait aussi dans la vie religieuse de l'époque, une obsession qui était le sens et la valeur à donner aux épreuves que toute vie humaine contient. Jésus s'exprime à plusieurs reprises quand on lui demande « Mais pourquoi celui-ci est-il aveugle ?» ou « Pourquoi la tour de Siloé, quand elle s'effondre, fait-elle autant de morts ? Qui avait péché ? Est-ce que c'est les parents ?» Est-ce que... Il y avait encore cette théologie rétributive, populaire, qui voulait que finalement la bénédiction soit donnée à ceux qui sont justes aux yeux de Dieu, ou dont les parents étaient justes, et puis ceux qui sont dans la mouise, ben, c'est qu'il y a quelque chose dans le, dans l'histoire familiale qui ne tourne pas rond, etc. Et du coup, ici, la manière de présenter de Jésus en disant que de toute façon, tout le monde est taillé. Il y a ceux qui sont taillés peut-être parce qu'ils ne portent pas de fruits, mais les autres aussi vivent des épreuves, parce qu'on est quand même au seuil de sa passion. Elle est déjà engagée, puisqu'il dit juste avant que l'heure est déjà venue. Donc on est dans un climat qui n'est pas euphorisant, qui n'est pas du tout apaisé au sens où il dira hein, « la paix, ma paix, je vous la donne, je vous la laisse, mais je ne la donne pas comme le monde la donne ». Et il sait de quoi il parle à ce moment-là, puisque s'il est capable de parler de paix, de joie et d'amour, c'est que forcément il donne une autre signification à tous ces mots. Et donc, effectivement, ici aussi, je pense qu'il sait, par réalisme, il sait que toute vie humaine est affrontée à l'épreuve, au combat spirituel, bien sûr, mais aussi aux épreuves matérielles, physiques, celles de la maladie, celles de la friabilité de toute existence humaine. Et donc, il montre que, finalement, une manière d'être son disciple, c'est dans la façon dont on vit ces épreuves-là. Ces épreuves, de toute façon, elles font partie de notre condition humaine. Elles sont inévitables. Il n'a pas de solution. Il ne vient pas sauver de ça, d'une certaine manière. Et la vie humaine restera fragile, exposée aux épreuves, etc. Mais lui qui montre qu'il a une maîtrise totale de son destin, puisque ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, qui va faire de sa passion une action, qui va faire de cette passivité aux yeux des hommes une activité suprême, je pense qu'il veut montrer que pour être son disciple... il y a deux lectures des épreuves, soit on les vit de manière stérile, soit on les vit de manière féconde, d'une certaine manière. Alors je marche sur des œufs en disant ça parce que c'est pas simple, mais soit on est effectivement coupé et on va à la perdition, soit on est émondé, c'est-à-dire que cette image d'ailleurs de la vigne, c'est une image de croissance, hein, c'est une image de germination, de devenir. On la trouve deux chapitres avant quand il dit si le grain ne meurt, il ne peut donner de fruits. C'est juste avant, c'est avant le lavement des pieds, au moment justement de
l'annonce de la passion.
L'annonce de la passion. Et je crois que ces images végétales sont des images de croissance, de devenir, sont intéressantes parce que ça veut dire que elles ne peuvent pas exonérer l'homme de la souffrance qui est liée à tout processus de croissance. C'est-à-dire tout processus de croissance est engagé dans des épreuves à traverser, dans des crises de croissance précisément. Et alors ce qui est magnifique, et là les gens épris de métaphysique sont émus de voir qu'ils combinent à la fois des images de devenir et de permanence. Puisqu'il dit « il faut que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ». C'est étonnant, parce que normalement, le fruit ne demeure pas, précisément. Le fruit, il mûrit et il pourrit. Voilà, et puis la vision païenne, c'était ça. La vie recommence, c'est le printemps, et puis après, c'est l'hiver, et puis bon. Et Jésus parle quand même de permanence. On trouve ça chez Saint Jean assez souvent. Hein. L'image... du devenir végétal qui est associé en même temps à quelque chose qui dure, qui dans le monde de Dieu a une stabilité, qui est incorruptible. Alors, est-ce que c'est de la philosophie grecque? Est-ce que c'est... Mais je trouve bien qu'il combine les deux. Mais parce que normalement, un grec le oppose ce qui est éternel et ce qui est mortel.
Oui, alors c'est vrai. Oui, dans un sens, oui. Mais c'est-à-dire que là, c'est vrai que... L'image en particulier du vin et de la vigne, c'est donc une image qui est très classique. On la retrouve dans la parabole, par exemple, d'Ésaïe, la parabole de la vigne en Ésaïe 5. Il y a l'idée aussi, voilà, que Israël, c'est la vigne. Et donc l'idée que notre existence, pour que la vigne produise du fruit, il faut le travail de l'homme et le travail de Dieu qui se combinent finalement pour produire du fruit. Et donc c'est une image de la vie humaine. Et c'est vrai que le fruit normalement pourri, mais justement, s'il est vendangé, s'il est pressé, s'il y a cette fermentation qui est quelque chose d'un peu magique finalement pour donner du vin, alors il se garde. Et ça, c'est donc une bonne image, si vous voulez, parce que le vin, c'est quelque chose qui est à la fois du jus de raisin, et oui, à la fois c'est le fruit de la vigne, donc du travail de l'homme et de la bénédiction de Dieu combinés, mais en même temps, c'est tout autre chose que du jus de raisin, à cause de cette fermentation et peut-être de cette joie aussi, de cette force que ça donne à travers l'alcool, le vin, voilà. Et donc c'est souvent une image, voilà, de l'idée que c'est à la fois notre vie présente, mais qui à travers cette transformation un peu étonnante, un peu incroyable, est gardée pour se garde en fait grâce à l'alcool, se garde éternellement. Alors que du jus de raisin, si on le pose comme ça, 3 jours après, c'est imbuvable, en fait. Donc, il y a quelque chose d'un peu magique. Et la différence, je crois, avec les Grecs, c'est que ce quelque chose qui va devenir éternel, parce que l'idée d'éternité, pouvait être présente chez les Grecs, mais à travers l'immortalité de l'âme, qui existe de toute éternité, qui se balade malencontreusement sur ce monde de boue et de douleur, et puis qui enfin peut être libéré, retrouver l'éternité, mais qui a toujours été la sienne en fait. Là, c'est pas l'idée. L'idée de ce quelque chose de tout neuf qui naît dans la combinaison du travail, de la bénédiction de Dieu et du travail de l'homme, c'est ce tout neuf qui apparaît dans ce monde-ci en fait. Mais néanmoins qui peut, bien que tiré du monde, de ce monde, va pouvoir atteindre quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Et c'est là qu'on n'est pas dans le retour en arrière, et peut-être que le mot résurrection est mal choisi, en fait. C'est pas un retour en arrière, la résurrection. C'est quelque chose qui s'éveille, si vous voulez. C'est
une création nouvelle.
C'est quelque chose qui était vivant avant, et qui enfin prend toute son ampleur, si vous voulez. C'est le grain de raisin qui devient du vin, c'est-à-dire qui, de quelque chose simplement de la terre, qui a sa valeur, qui a une vraie valeur, comme un grain de raisin, c'est délicieux, etc. Mais c'est promis à pourrir, comme tu dis. Peut prendre tout d'un coup, on ne sait comment, finalement, quelque chose de miraculeux. C'est encore ce jus de raisin, c'est encore ce raisin, mais il a une dimension éternelle. Donc c'est ça, je crois.
C'est l'image de Paul aussi, hein, qui vient, ce qui est semé corps physique.
Ressuscite corps glorieux, imputrescible. Hein, alors on lui pose la question, 1 Corinthiens 15, mais qu'est-ce que ça veut dire résurrection de la chair? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Il dit, mais bien entendu, c'est pas la viande, si vous voulez, qui est pourrissable, qui hérite de l'éternité. C'est là que l'idée de semaille que tu disais, voilà, le corps est semé périssable, il ressuscite glorieux et spirituel. Donc bien entendu, quand on dit résurrection de la chair, c'est pas la résurrection des protéines, c'est pas une histoire de chimie des protéines. Pas plus d'ailleurs que l'Eucharistie, évidemment, c'est pas une transformation de la cellulose en protéines, on est bien d'accord. Donc ça, si vous voulez, c'est une idée que il y a... Effectivement, la résurrection de la chair, c'est que dans la vie éternelle, on est ressuscité individu, je crois. Et là encore, c'est polémique contre l'anthropologie grecque, où dans la vie future, notre âme, elle rejoint l'unité du grand tout, mais il n'y a plus d'individu. Là, si, c'est l'individu qui est gardé, je crois. C'est l'individu qui est gardé, puisque, voilà. Donc, mais c'est vrai, tu as raison, le verbe « demeurer », là... C'est un verbe qui est très fort, ça veut dire demeurer pour la vie éternelle quand même. C'est pas demeurer 5 minutes, c'est une permanence. Oui.
Mais c'est pas seulement effectivement la permanence de l'essence, puisque le même mot demeurer apparaît, vous l'avez vu, demeurez en moi comme je demeure en vous. Il s'agit d'une permanence de communion entre des personnes, c'est-à-dire une cohabitation entre le Père et le Fils. On disait quelquefois une inhabitation, Bérulle aurait dit ça, ou peut-être Calvin aussi, l'inhabitation des personnes.
Ben ça, c'est très joannique.
C'est très joannique, effectivement. Et c'est l'idée d'une communion de vie qui n'est pas fusionnelle, qui est effectivement avec des personnes distinctes, des, des réalités personnelles distinctes qui cohabitent les unes dans les autres. Et c'est ça le processus de la vie nouvelle. Demeurez en moi comme je demeure en vous. D'où l'usage que la liturgie en fait aussi, hein, par lui, avec lui, en lui. Il y a toujours l'idée qu'à un moment, il faut être en Christ. Alors, est-ce que le Christ, le corps du Christ, c'est l'Église? Est-ce que c'est la communion sacramentelle? C'est tout ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un déploiement de symboles pour dire cette inhabitation, cette cohabitation, cette coexistence. Des vies prises les unes dans les autres, et que c'est ça finalement la permanence. Et donc on n'est plus dans la permanence de l'ousia grecque, de l'essence stable, incorruptible, le dieu des philosophes, mais on est dans quelque chose d'amoureux, et c'est pour ça que le mot d'agapé va venir juste après. Je reviens juste un peu sur le mot émondé, parce que émondé, mundus, ça veut dire purifié en fait. Et je me suis amusé tout à l'heure à relire les chapitres précédents, et on voit les foules qui arrivent pour la Pâque à Jérusalem, qui viennent pour y être purifiées. Alors, c'est le même mot, c'est kataros, katairain, donc pour y être émondé d'une certaine manière. Alors, émondé est devenu un mot un peu technique pour le jardinage, et purifié c'est associé au lexique religieux, mais en grec c'est le même mot. Donc ça veut dire que là, Jésus fait quand même un acte d'autorité religieuse. On est dans un autre culte, un autre régime du pur et de l'impur. Il ne s'agit plus de monter au temple pour être purifié par des offrandes végétales, par des sacrifices, par des ablutions, etc., une fois par an, pour être sûr de rétablir cette espèce de déséquilibre entre le pur et l'impur, parce qu'aucun juif ne pouvait prétendre être pur. Il faut bien penser hein, qu'un juif de l'époque vivait dans cette obsession hein, de la pureté. On voit d'ailleurs les prêtres qui ne veulent pas entrer dans le prétoire de Pilate parce qu'ils préparent Pâques, ils ne veulent pas déjà être impurs parce qu'ils ont suivi tous les rites de pureté, rituels, etc. Donc là, il y a vraiment un déplacement ou une subversion qui est totale. Puisque vous êtes émondé par la parole que je vous ai dite. C'est-à-dire, vous êtes purifié par la parole que je vous ai dite. Et c'est par cette fidélité à cette parole, parce que l'amour, la joie et la paix dans ce discours d'adieu ne sont pas abstraits. Hein, on va le voir tout de suite dans le chapitre qui suit. L'amour, c'est pas une capacité comme ça psychologique. Beaucoup de chrétiens croient ça, que c'est quelque chose qu'on a et qu'on... Il suffirait d'ouvrir le bon robinet pour aimer... Non, il donne des gages, il donne des critères. L'amour, pour qu'il soit vraiment réel, qu'il ne soit pas une illusion, qu'il ne soit pas un rêve, qu'il ne soit pas une chimère, est fondé sur la fidélité. Fidélité à des commandements nouveaux. On va peut-être dire ça.
Ce qui peut sembler choquant, c'est... Aussi, c'est quand Jésus dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de moi, on ne peut porter aucun fruit, si vous voulez. » Quand on lit ça aux enfants au catéchisme, ils sont extrêmement choqués. Ils disent « Mais Jésus, il se la pète. Il s'imagine que, bon, il n'y a que par lui, etc. Qu'en dehors de lui... » C'est vrai que ça, c'est des discours qu'on peut entendre dans les sectes aussi, si vous voulez, qui présentent toujours le monde extérieur à leur Église comme un monde de ténèbres, un monde de perdition, d'infidélité, etc. Et ça, c'est un langage qui est très structurant pour l'intérieur, pour sa communauté, de dire, voilà, à l'extérieur, c'est tout plein de caïmans et de requins qui vont vous dévorer, il n'y a que ténèbres, horreurs, pensées lubriques, je ne sais pas quoi à l'extérieur. Donc, ça peut ressembler à ça, mais pas du tout, si vous voulez. Il faut voir que ce texte, si vous voulez, sans arrêt, Jésus dit, mais ce n'est pas mes œuvres à moi, c'est celles du Père. Il y a un effacement toujours de Jésus devant Dieu. Et en fait, il faut remplacer à ce moment-là, hors de moi, en dehors de moi, il faut le relire dans le contexte, dans ce qu'on va voir juste après, c'est-à-dire en dehors de l'amour, finalement. On pourrait dire, celui qui n'aime pas, ben, il ne vit pas vraiment. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez celui qui n'espère pas, si comme Paul, on traduit Christ par foi, espérance et amour, bon, celui qui... celui qui vit sans espérance dans ce monde, ben, il implose. C'est une vie qui va se recroquevillant sur elle-même. Celui qui n'aime pas, celui qui n'a pas cette foi, c'est-à-dire une fidélité qui est tendue vers une source de vie, quelle qu'elle soit, à mon avis, c'est invivable. Il ne peut pas y avoir de fruits, il ne peut pas y avoir de croissance, il ne peut pas y avoir de germination en dehors de ça. Donc ce n'est pas de l'arrogance de Jésus, ce n'est pas pour se mettre en avant, alors qu'au contraire, il est dans le temps de l'effacement, finalement. Et c'est bien ce qu'il va dire dans la suite. Mais c'est pour insister, à mon avis, sur l'essentiel.
Chantal, peut-être, pour le 16.
Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas à l'épreuve. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. Et je vous ai dit cela afin que de leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le début car j'étais avec vous. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne me pose la question « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Encore un peu, et vous ne me verrez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. Certains de ses disciples se dirent alors entre eux, « Qu'a-t-il voulu lui dire ?» Encore un peu, et vous ne me verrez plus sous les yeux. Et puis encore un peu, et vous me verrez. Ou encore, je vais au Père. Que signifie donc ce « un peu » disait-il ? Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire. Sachant qu'il désirait l'interroger, Jésus leur dit, vous cherchez entre vous le sens de ma parole, encore un peu, et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. Parce que la femme enfante, elle est dans l'affliction puisque son heure est venue. Et lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement. Elle est toute à la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction. Et je vous verrai à nouveau, votre cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit tout cela de façon énigmatique, et l'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et cependant, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Tandis qu'à présent, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici que maintenant tu parles ouvertement et que tu abandonnes le langage énigmatique. Maintenant, nous savons que toi, tu sais toutes choses et que tu n'as nul besoin que quelqu'un t'interroge. C'est bien pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Croyez-vous à présent ? Voici que l'heure vient, et maintenant elle est là. Vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
Voilà, voilà.
Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il faut reconnaître quand même que dans l'évangile de Jean, le monde peut avoir deux sens. Ou en tout cas, il y a une tension qui habite et qui traverse tout l'évangile. Vous le savez, au chapitre c'est 3, Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Où on retrouve l'idée que l'incarnation, effectivement, se fait dans le monde, et parce que Dieu aime le monde, comme dans le prologue. Hein. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, etc. On voit toute cette fresque grandiose où Dieu fait venir le Verbe dans le monde parce qu'il aime le monde. Et puis, évidemment, dans tout ce discours d'adieu, le monde est présenté comme une force menaçante, même si on cite toujours évidemment la phrase qui est au chapitre 17, hein, je ne te demande pas, Père, de les enlever du monde, en parlant de ses disciples, mais...
De les garder, non ?
De les garder... je vais regarder en vitesse, je ne te demande pas... François, vous connaissez par cœur... J'imagine, non, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais, c'est ça, voilà. Et de même que l'amour aussi, au début de ce discours d'adieu, on nous dit, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde à son Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Donc vous voyez que l'amour, on a déjà eu peut-être ce débat, l'amour est présenté un petit peu comme quelque chose d'identitaire, c'est-à-dire c'est à ça qu'on reconnaîtra mes disciples, aimez-vous les uns les autres, etc. Et ça paraît presque un tout petit peu contradictoire avec l'amour universel qui existe dans les synoptiques. Vous savez, dans les synoptiques, l'amour du Samaritain, par exemple, qui est inconditionnel. Matthieu 25, celui qui donne à boire à celui qui a soif, etc. Bon, il y a une vision universelle de l'amour qui nous semble aller de soi, puisque nous avons été nous-mêmes catéchisés dans cette idée-là, hein, que Jésus annonce un amour universel. En même temps, chez saint Jean, notamment dans ses discours assez dramatiques, il est question de l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour au sein d'une communauté, aimez-vous les uns les autres. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout, on ne dit pas les autres, on dit bien les siens, et il est question de l'amour de Jésus pour ses disciples. Alors évidemment, tout ça n'est pas contradictoire, évidemment, mais on voit bien que, historiquement, des gens qui se réclamaient de l'évangile de Jean, par exemple, pouvaient en faire une lecture très identitaire, presque gnostique ou sectaire, et puis ceux qui se réclamaient des synoptiques, une vision beaucoup plus ouverte, voilà. Mais en fait, il faut les deux, c'est-à-dire qu'il y a cette injonction de l'amour universel, puisque l'amour des amis est quand même plus facile que l'amour des ennemis, etc., et il y a en même temps cette idée que c'est quand même l'amour au sein de la communauté qui est le premier des témoignages, et que ça implique déjà qu'il y ait une communauté. Alors, ce n'est pas forcément au sens communautariste, mais en tout cas, il y a cet amour d'un premier cercle qui est enraciné dans l'amour théologal. C'est vraiment l'agapé. L'agapé est incarné, ça passe par le Père aime le Fils aime les siens, et vous voyez, ça se propage comme ça. C'est un amour qui est profondément enraciné, c'est vraiment l'agapé théologal. Après, les synoptiques présentent, à mon avis, une conception de l'amour un petit peu différente.
Je ne sais pas, parce que si tu veux...
Mais il faut tenir les deux.
Oui, tout à fait. Oui, mais après, c'est une question de la manière de le présenter plus que de différence, je crois, sur ce point-là. Alors que dans d'autres points, il y a des différences fondamentales, mais c'est une question de pédagogie. Par exemple, dans le prologue, la parole où la lumière a été donnée, en fait, et les siens ne l'ont pas reçue, vous voyez. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, vous voyez, on est toujours dans ce intérieur-extérieur, même ceux qui n'ont pas reçu la parole et la lumière, ils sont comptés comme faisant partie des siens, c'est-à-dire de ceux que Christ reconnaît comme étant de l'intérieur, en fait. Et ici encore, si vous voulez, c'est une question... et puis c'est pareil pour le monde, si vous voulez. C'est une question... Le monde est aimé, mais la question, mais ce sera pareil chez Paul, c'est de vivre... selon l'esprit ou selon le monde, c'est-à-dire savoir, c'est comme pour savoir si on possède notre argent ou si notre argent nous possède, savoir si on est selon le monde, c'est-à-dire qu'on vit les yeux tournés vers le bas ou tournés vers son nombril, et si on vit selon Dieu, bah, comme le dit cette prière que tu rappelais, on est dans le monde. Mais on a cette tension qui est vécue forcément douloureusement, comme Jésus le rappelle, cette tension entre le monde où nous vivons, où nous sommes, et puis ce souffle infini qui en même temps nous habite et qui nous anime vers autre chose, mais sans qu'on quitte le monde, que ça soit comme un ensemencement finalement. Donc il y a vraiment une tension, quoi, une tension qu'on sent bien à l'intérieur de nous-mêmes. En même temps, on voudrait être parfait et puis on fait ce qu'on peut. En même temps, on aimerait vivre, ne choisir que des belles choses. En même temps, il y a le tragique de l'existence qui fait qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. En même temps, on aimerait être tout puissant pour régler les problèmes de paix au Proche-Orient. Et puis en même temps, on n'y peut rien. On a déjà du mal à faire la paix avec notre frère et notre collègue et notre voisin. Donc si vous voulez, on est toujours dans cette tension. Mais savoir vers quoi on regarde, finalement. On est dans le monde, mais on a une espérance, on a quelque chose qui nous anime, qui est supérieur, et donc on est du monde sans, on est dans le monde sans être du monde, en fait. Et c'est toujours cette ambiguïté-là, à mon avis, qui est en cause ici. Et pour faire... De toute façon, je crois que nous faisons partie des siens, de toute façon. Ensuite, voilà, pas tout en nous, j'allais dire. Donc c'est pour ça que c'est ambigu, mais bien sûr, parce que nous, on est dans cet entre-deux, de toute façon. Hein. On n'est pas dans le parfait. D'ailleurs, les disciples de Jésus, ils sont toujours assez lamentables, en fait, surtout dans l'Évangile selon Jean. Et je crois que là aussi, c'est très rassurant. Parce que ces grands champions de la foi qui avaient le Christ sous les yeux, les Christ partager le repas, leur laver leurs vrais pieds avec des doigts de pied tout sales et tout. Eh bien, en fait, c'est eux-mêmes, ils comprennent rien à rien, ils vont l'abandonner à la moindre petite difficulté. Donc, c'est très rassurant. Ils sont comptés parmi les siens. Il leur dit à eux, vous êtes déjà purs à cause de la parole. De la parole... Qui leur dit qu'ils sont regardés comme purs par Dieu, finalement. Et pourtant, ils sont un peu nuls. Ils ne comprennent rien, ils trahissent. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa quand même. Voilà.
Mais d'ailleurs, enfin, le lavement des pieds ou le lavage des pieds, c'est vrai que c'est une manière... Enfin, on n'imagine pas à quel point c'était transgressif dans une société où certes, les Juifs ne connaissaient pas d'esclavage dans la société juive, qui était une société égalitaire, mais dans cette Palestine du 1er siècle, qui était très romanisée, très hellénisée, la condition servile était une réalité qu'on côtoyait tous les jours. Il y avait des gens de statut subalterne, puis il y avait des gens un peu hors communauté juive, un peu paria, qui faisaient les tâches soit la prostitution, soit les douanes, les droits de péage qui étaient prélevés, vous le savez, par des publicains, etc. Donc, en lavant les pieds, c'est pas seulement... c'est évidemment pas de la coquetterie, de la fausse modestie, etc. Parce qu'on serait peut-être tenté, quelquefois, de lire ça comme ça, avec un Pierre un peu mondain qui dira « Oh, mais non, pas ce soir, demain, si tu veux. » Mais c'est pas du tout ça. C'est, évidemment, c'est insupportable pour lui que le rabbi, le maître, puisse se pencher vers lui et faire une tâche un peu humiliante, etc. Il y a quelque chose... Alors évidemment, la ritualisation, parce que l'Église en a même fait un sacrement à un moment, un sacrement de confirmation, la ritualisation du geste fait qu'aujourd'hui, le jeudi saint, quand on fait ce geste-là, c'est plus dur de se faire laver les pieds que de les laver, parce que c'est plus délicat de demander à une personne de se déchausser. Mais enfin bon, c'est, la grandeur du geste, c'était quand même, pour Jésus... de le rappeler qu'en se mettant en position d'esclave, quelques heures après, il en avait une préscience évidente, ou quelques jours après, enfin je ne sais pas quelle peut être la chronologie, il allait subir le supplice des esclaves, qu'il allait vivre son l'accomplissement de sa mission comme ça. Même chose dans le signe du pain et du vin, bon, qui n'apparaissent pas ici, mais c'est aussi l'idée du don. Hein. Bien sûr, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc il y a un génie religieux chez Jésus, enfin c'est la moindre des choses puisqu'il est Dieu, mais c'est quand même extraordinaire qu'il, avec ces types un peu rustiques, il arrive à poser des gestes suffisamment transparents pour ceux qui peuvent comprendre, suffisamment opaques pour les autres. Moi, ce qui me frappe aussi dans cette partie du texte, je me suis trompé tout à l'heure parce que j'ai fait allusion à l'agapé. L'agapé, c'est avant, en fait, quand il dit « je vous donne un commandement nouveau », mais ça apparaît deux fois. Mais donc ici, effectivement...
C'est la filia, oui.
Oui, c'est le thème de l'année, c'est le thème de la joie, alors, puisqu'on était dans cette question du bonheur qui est lié, vous le voyez, à la vérité, à la paix et à la joie et à l'amour, à l'agapé. Il y a une constellation qui serait intéressante qu'il serait intéressant de reconstituer. Cette question de la joie, cette joie, nul ne vous la ravira. Puis on la présente aussi comme parfaite. C'est impressionnant parce qu'on est à quelques heures d'un dénouement où Jésus va être exposé à la violence, au déchaînement des passions, de la bêtise et de cette violence armée j'allais dire masculine, mais enfin, de fait, c'est quand même ça. Il va être exposé à ce qu'il y a de pire dans l'obscurité humaine, et il parle d'une joie qu'on ne peut pas prendre, qu'on ne peut pas arracher. Alors, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec un grand texte de la tradition indienne, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la Bhagavad Gita. Si vous connaissez le chant du bienheureux, la Bhagavad Gita, qui est la partie la plus étonnante du Mahabharata, quelquefois d'ailleurs on présente le Mahabharata comme une espèce d'Ancien Testament et la Bhagavad Gita un peu comme un évangile indien, vous avez le dieu Krishna, qui sous un avatar, Vishnu, c'est plutôt l'inverse. Oui,
bon, c'est... Je sais pas bien.
Oui, non, c'est Vishnu, mais qui se fait appeler Krishna, pardon. Oui, c'est évidemment Vishnu, le dieu qui apparaît sous les traits de Krishna et qui se trouve avec un guerrier qui va affronter la violence, le choc même d'un affrontement guerrier. Il se rend au champ de bataille, il est sur son char, il sait qu'il va y risquer sa vie, donc on est à quelques heures d'une issue... peut-être fatal, et il s'agit de garder la paix intérieure malgré cela. Donc c'est pas une paix intérieure qui est cultivée dans les monastères, hein. C'était tout le problème de la religion indienne, c'est-à-dire que la paix, la quête de l'unité, etc., de l'unité intérieure promise par l'hindouisme, ne pouvait se vivre au fond que dans des conditions de vie un peu un peu exceptionnel, à tel point que pour le petit véhicule, on pensait même qu'il fallait être moine pour pouvoir connaître cette non-dualité, etc. Et voilà que ce grand texte, parce que c'est un grand texte du patrimoine religieux universel, la Bhagavad Gita dit qu'on peut avoir la paix intérieure, même dans les convulsions, les événements, la violence, le choc des combats, etc. Alors,
il est suspendu sur des pics.
Oui, c'est ça. Donc,
le corps est étendu sur des pics. Putain, alors c'était quand même un gros. Et il délivre toute la Bhagavad Gita dans un champ entier, le corps nu sur des pics.
Comme un fakir. Mais ça, c'est dans la mise en scène de Brooke.
Non,
mais c'est dans le texte. Ah oui, je me souvenais pas. Voilà. Et ici, il y a quelque chose aussi, ce qui prouve bien que c'est quand même un invariant de l'inquiétude religieuse humaine, à savoir comment parler de joie, de paix, d'amour, de manière un peu réaliste, et pas dans des écoles. Voilà. Donc là, il y a un concentré, bien sûr, un concentré assez dramatique, évidemment, de l'enseignement de Jésus. La bonne nouvelle, elle est là. Il va vivre sa passion, mais il leur donne, il leur promet en plus, parce que l'avenir reste ouvert. L'avenir, ce sera la venue de l'Esprit Saint qui leur apprendra encore plus, etc. Donc, c'est quand même extraordinaire. Là où l'expérience humaine pourrait se rabougrir, se rétrécir, les forces vitales s'épuiser, se replier sur son angoisse à lui. Voilà qu'il est voilà, dans le don, dans la joie, une joie qui n'est évidemment pas illuminée, qui est une joie concrète, incarnée.
Mais tu parlais du lavage des pieds, de Jésus par de Pierre par Jésus, et Pierre qui dit non, je ne peux pas accepter ça, parce que ça ne correspond pas à ma théologie finalement. Et donc c'est rigolo, c'est que voilà, il a son schéma mental et il a du mal à accepter que... Bon, en même temps, il reconnaît Jésus comme maître et seigneur et en même temps, il se refuse à accepter sa théologie. Il veut garder dans sa propre conception. Quand on lit ces textes, c'est vrai qu'on y vient avec notre catéchisme, ce qu'on a toujours appris. Et en fait, il y a pas mal de passages qui sont assez étonnants par rapport à ça. Par exemple, sur la croix, alors on nous apprend, voilà, la croix, c'était indispensable au salut, mais ici, le seul côté positif, c'est qu'il est avantageux que je m'en aille, dit Jésus. C'est-à-dire que si je suis toujours là, vous serez infantilisés avec toujours moi comme source de vérité pour vous, et non une vérité qui vient de l'esprit en vous, c'est-à-dire de l'action de Dieu en vous. Alors là, c'est l'esprit, c'est le paraclet, c'est-à-dire à la fois le consolateur et le convertisseur, j'allais dire. Parce que la consolation, c'est pas simplement on était triste, on devient joyeux. C'est quelque chose qui nous transforme. Alors ça peut transformer l'humeur, c'est-à-dire on était triste et puis on a le moral, même dans les moments difficiles. Mais c'est une transformation, je dirais, plus large spectre que simplement celui d'avoir bon moral. C'est pas seulement ça. C'est consolation, hein, dans Ésaïe, consoler mon peuple. C'est bien ça dont il est, qui est en écho ici.
Et c'est le défenseur aussi.
C'est aussi celui qui prend la défense. Oui. C'est ça. C'est-à-dire qui nous rend peut-être fort face à l'ennemi. Donc le seul intérêt de la mort de Jésus, c'est ça. C'est de laisser le champ libre à ce que nous puissions... peut-être nous émanciper un peu et devenir capable de devenir prophètes nous-mêmes, c'est-à-dire de pouvoir avoir c'est quand même vachement frappant, j'allais dire dans le chapitre 15 au verset 20, s'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi, ils garderont aussi, du verbe garder, comme on garde l'alliance, hein, c'est quand même très très fort, c'est pas juste écouter ce que vous racontez, ils garderont aussi la vôtre, pas simplement nous qui répétons des versets, si vous voulez. Notre parole qui sortira du fond de nous-mêmes. Ça, c'est quand même comme on garde la parole de Jésus, je veux dire. C'est quand même... donc c'est avantageux qu'il y ait. Mais sinon, j'ai l'impression que la souffrance et la mort du Christ, elle est vue plutôt là comme quelque chose de mauvais, si vous voulez. On le voit, par exemple, d'abord dans ce qui est dit sur le monde. Voyez, bon, vous êtes comme moi, vous êtes dans le monde, donc vous allez en prendre plein la gueule. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est parce qu'il y a cette tension entre quelque chose d'ultime qui vient de Dieu et puis ce monde qui est un monde, je dirais, voilà, aux ressources limitées, avec ce que nous sommes, des animaux parfois un peu spirituels et sociaux, mais à grand peine. Donc c'est plutôt ça qui est la source de la mort, de la souffrance du Christ. C'est pas Dieu qui le voudrait, qui le programmerait, c'est le monde. Voilà, et c'est, je trouve que voilà, au 15-25, voilà, afin que s'accomplisse cette parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Voilà, ils m'ont tué sans raison. C'est-à-dire que cette mort du Christ est sans raison, si vous voulez, sans raison valable. C'est pas le plan de Dieu. On pourrait dire que c'est inscrit comme une fatalité, oui, que forcément la haine veut tuer l'amour parce que c'est insupportable comme. Comme révélateur de leur propre turpitude, de la nôtre, si vous voulez. Voilà, où tu parlais des crises de croissance, c'est plutôt ça. Voilà. Il y a des crises de croissance. C'est-à-dire que, bon, on a un genou qui fait mal parce que quand on grandit, ça fait mal. Donc, c'est ça, finalement, la mort du Christ. C'est pas quelque chose, là, c'est quelque chose qui n'est pas présenté comme étant positif en soi. Ça semble plutôt la conséquence de la haine du selon le monde contre cette autre façon d'être, qui est vivre selon l'esprit. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que vous, comment tu vois la chose, mais...
Si, et justement, enfin, c'est intéressant parce que vous savez qu'il y a des traces dans tous les évangiles de polémiques, de controverses, plus ou moins cachées, plus ou moins voilées, sur les origines de Jésus. Régulièrement, voilà, il y a des gens qui disent, c'était d'ailleurs dans la liturgie la semaine dernière, en semaine, je ne sais plus dans quelle page de l'évangile, le Christ, quand il viendra, on ne saura pas d'où il vient, alors que lui, on sait d'où il vient. Et puis régulièrement, il y a des gens qui disent, mais lui, on connaît sa mère, on connaît ses frères, lui, c'est un Galiléen, et puis, vous savez, nul n'est prophète en son pays, etc. Et là, évidemment, on est dans une vision extrêmement haute. C'est une christologie très haute, à tel point qu'il y a même une confession de foi à la fin de la part des apôtres. Hein, tu nous as parlé en parabole jusqu'à présent, mais maintenant tu nous parles ouvertement, et c'est bien pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et avant, Jésus ne cesse de le dire, d'ailleurs. Hein, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. C'est-à-dire que son origine... Et c'est pas du tout de la mythologie, on est très loin de l'avatar ici, justement. C'est pas Vishnu qui devient Krishna, ça n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire que l'origine profonde, l'origine ultime, l'origine de l'identité de Jésus, c'est bien de venir du Père. Ça ne l'empêche pas, bien sûr, d'avoir eu des parents, d'avoir eu une vie de famille, mais qu'on ne peut pas réduire, on ne peut pas faire du réductionnisme sociologique qui réduirait Jésus à être le produit de déterminisme historique, sociopolitique, etc. Bien sûr qu'il est né probablement d'ailleurs plus à Nazareth qu'à Bethléem, c'est encore une lecture, évidemment, il y a un montage symbolique et théologique. Bien sûr qu'il a grandi, qu'il avait un métier, etc. Mais on ne peut pas le réduire à une lecture qui serait, alors si elle était marxiste, on dirait que c'est le fils d'ouvrier, ou si elle était, je ne sais pas, socio-religieuse, on dirait que ce n'est pas un juif de Jérusalem, ce n'est pas un juif de Judée, c'est un Galiléen qui est regardé un peu comme un métis. Voilà, on peut multiplier les regards sur Jésus. Mais à un moment, le disciple doit se déterminer par lui-même. Et il y a la foi, c'est-à-dire qu'il y a ce que les Grecs appellent la pistis, c'est-à-dire qui était d'ailleurs une valeur assez peu considérée dans les classes sociales élevées, dans les élites grecques et romaines. L'idée de la foi jurée à quelqu'un, La société féodale, évidemment, dont nous sommes issus, va valoriser ça. Mais le monde gréco-romain connaissait le clientélisme, par exemple. Mais enfin, l'idée de foi, là, est au cœur. Hein. On voit bien que les disciples sont autour de leur maître et qu'ils lui donnent leur foi. Et que cette foi, évidemment, ne fait pas exception, ne prend pas en considération des explications humaines de Jésus. Ça ne les intéresse plus. Ce qui les intéresse, là, c'est qu'il soit venu du Père. Alors évidemment, il ne vient pas du Père comme le petit prince vient de sa planète. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est que... c'est vrai, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Oui, c'est vrai. Il vient du Père...
Oui, mais c'est pas simplement de la croyance. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a en Jésus-Christ quelque chose qui est de l'ordre d'une source ultime de vie, de vérité de vie, d'amour, de façon d'être, de placer son existence pour aimer les autres au sens de l'agapé, c'est-à-dire de les servir au vu de qui puissent devenir enfin eux-mêmes et pouvoir exprimer ce qu'ils sont eux-mêmes, mais aussi ce qui demande encore plus d'humilité, comme tu le disais, pour le lavage des pieds, ça, dans cet amour mutuel. C'est pas simplement aimer les autres, servez-les, c'est l'idée de se laisser servir aussi, c'est-à-dire de laisser la place à l'expression créative de ceux qui nous entourent et que les laisser nous apporter quelque chose. Et que ça soit dans ce don mutuel ou dans cette double réception, finalement. J'allais dire même cette double prise, parce que là, c'est dedans, là. Hein, voilà, c'est l'idée de prendre. Par exemple, verset 14, c'est ça, 16, 14, « Il me glorifiera car il recevra... » Mais on ne sait pas si c'est recevoir ou si c'est prendre, hein, c'est lambano, c'est à la fois prendre aussi, c'est s'en saisir, hein, si vous voulez. Ce n'est pas simplement le recevoir comme une pomme reçoit, enfin un panier reçoit la pomme qu'on jette dedans, c'est s'en saisir, hein, c'est le prendre. Voilà, dans la scène, il y a prenez et mangez, c'est-à-dire il y a l'idée de prendre et puis d'assimiler, d'en vivre, et c'est ça qui est en cause ici, je crois.
Mais comme c'est le thème de notre année, justement, oui. Sur la joie, moi je crois que la joie il est question ici, c'est la collaboration de notre liberté avec la grâce, c'est-à-dire c'est ce moment de correspondance, d'adéquation, d'alliance entre Dieu et l'homme, de collaboration intime, d'inhabitation aussi, hein, de notre liberté qui est minée par toutes sortes de choses parce qu'elle est toujours faible, et puis de la grâce. Il y a cette espèce, et alors là pour le coup ça réconcilie nos traditions théologiques, parce que de fait il y a bien ça, il y a ce combiné d'autonomie et de grâce,
de grâce et de foi,
de grâce et de foi. Et la joie pascale, puisqu'il s'agit quand même... Cette joie imprenable, c'est la joie pascale. Nous sommes la nuit, mais cette nuit ouvre sur l'aurore de Pâques, sur l'aube de Pâques. La joie pascale n'est pas une joie bon marché. C'est pas une euphorie passagère, c'est pas un emballement, c'est pas un feu de paille. C'est lié à la fidélité au commandement nouveau de l'amour, etc. Et là, c'est une tâche infinie. Alors évidemment, la fois prochaine, parce que je crois qu'on approche...
L'heure est venue.
L'heure est venue.
Donc on se retrouvera le mercredi 14 mai à Saint-Eustache, en fait.
Et ce sera la joie dans l'Apocalypse, justement. Le bonheur, l'accomplissement de la joie.
Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, Apocalypse 21 et 22. Merci beaucoup, bon retour. Hein. Et donc, joyeuse Pâques... à chacune, à chacun.
Comme vous le savez, tous les groupes écuméniques, puisque j'ai été contacté par le responsable Père Escudier, responsable des groupes écuméniques pour Paris, tous les groupes écuméniques sont invités à se retrouver depuis des années à La Défense le jour de Pâques,
à l'aube de Pâques.
À l'aube, à 7h30, je l'ai fait une année. voilà, pour célébrer, pour annoncer la Pâque. Et d'autre part, pour tous les groupes écuméniques, pour tous les membres des groupes écuméniques, il y a un concert le 17 mai à 15h à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou. C'est la tradition de Pâques en musique dans les traditions d'Occident et d'Orient, donc des églises orthodoxes, réformées, protestantes, catholiques, etc. Je pense que ce sera très beau, et c'est par le service écuménique du diocèse de Paris. Donc ça promet d'être un beau moment. 15h le 17 mai.
Merci, voilà. Beaucoup, au revoir.